Bon, écoute, je pense que les gens sont capables de réaliser que t'as pas mal, t'as un bon background académique. Mm. T'as vécu assez longtemps dans le milieu universitaire aussi. Tes études, mais aussi t'as travaillé pas mal pour aider des chercheurs ou en tout cas aller chercher des contrats de recherche, etc. Puis dans la tête de beaucoup de gens, il y a une opposition entre l'éducation, une instruction poussée, si on veut, avec les croyances chrétiennes. Okay, pour eux autres, le christianisme, c'est quelque chose qui est bon pour les naïfs, disons-le carrément. Là, okay?
Bon.
J'aimerais ça que tu nous expliques un peu ton parcours académique mis en parallèle avec ton cheminement chrétien. Autrement dit, il y a dû avoir t'as dû la sentir, cette opposition-là, le message qu'on passe, que le christianisme n'a pas de place avec l'éducation et la connaissance.
Oui.
Alors, si on part, mettons, je sais pas, du secondaire, où tu te situais par rapport à tes croyances, où tu étais rendu par rapport à ton éducation, puis en allant jusqu'à aujourd'hui.
Oui. Bon, à partir du secondaire, faut dire, là, j'ai fait un cheminement là, assez typique, là, comme la majorité des Québécois, là, je suis arrivé au secondaire 5, puis en terminant mon secondaire 5, je me voyais comme en travaillant dans le domaine des sciences, là, peut-être même faire de l'aéronautique. Et puis, à partir du cégep, là, ici, là, ce qui correspond peut-être au début de l'université en Europe, j'ai réalisé là, que sur le plan des mathématiques, là, j'avais un peu de difficultés là, j'avais des difficultés là pour intégrer les maths et surtout la mémoire là, qui me manquait là, pour enregistrer là, les équations là, qu'on doit ingurgiter en quantité industrielle là. Et puis finalement j'ai regardé ailleurs là, j'ai été vers les sciences sociales et puis dans cette période charnière là aussi je suis devenu chrétien évangélique là, donc j'ai commencé de réfléchir un peu aussi avec une certaine distance critique par rapport à l'enseignement de façon générale, là, sans plus, là. Mais déjà, par exemple, sur la question des origines, là, je me rendais compte qu'il pouvait y avoir des conflits entre les perspectives orthodoxes, là, qu'on nous enseignait sur le plan de l'évolution et, par exemple, une interprétation un peu plus littérale de la Genèse puis des Écritures. Et puis, pour moi, là, il y avait
Je peux-tu te poser une question avant qu'on aille trop loin? T'as dit, bon, à un moment donné, après le secondaire, t'es devenu chrétien évangélique.
Oui.
Donc, tu l'étais pas avant.
Oui, c'est ça.
Mais t'étais un croyant, tu te considérais un croyant, t'étais un catholique. À quel niveau tu te situais par rapport à la religion?
Oui, j'ai été élevé dans une famille catholique bien pratiquante, là, donc... ça fait que j'ai été exposé au catholicisme là, jusqu'à bien dans mon adolescence. Et puis, pendant très longtemps, là, c'était le quotidien de la famille et c'était mon quotidien à moi. Et puis, pour lequel je me suis pas posé de questions pendant très longtemps non plus. Mais rendu au milieu de l'adolescence, à la fin de l'adolescence, là, je commençais à me poser des questions sur Dieu et puis sur... comment marcher avec Dieu, qu'est-ce que ça pouvait changer d'avoir Dieu dans sa vie et j'ai commencé de fouiller plus ces questions là puis finalement là je me suis tourné vers une perspective plus évangélique là où les chrétiens doivent justement décider de suivre Christ et ses enseignements de façon personnelle et puis se voir aussi comme pécheur. En tout cas, il y a toute le côté théologique, là, je sais pas si...
Ça te rebutait pas, parce que je m'imagine, on se situe dans les années 70, là, au moment où tu passes à travers cette réflexion-là. L'idée là, de se reconnaître pêcheur, puis tout ça, il me semble, c'était pas tellement séduisant pour la société de l'époque. Ça devait pas non plus t'intéresser trop, je veux dire. Comment ça se fait que t'as embarqué? Ça t'a pas rebuté, ce côté-là?
Oui, justement, ça m'a semblé un peu quasiment irrationnel jusqu'à un certain point, là, au début, là, quand on m'a abordé avec ces questions-là. On me disait, entre autres, là, que Jésus est mort pour nos péchés, puis pour moi, là, je disais, bon, mais ça va. J'acceptais ça sur un plan un peu abstrait, mais on insistait à le mettre sur le plan personnel. Puis finalement, je me disais, sur le plan personnel, pourtant, c'est un peu étrange. J'ai jamais volé une banque, j'ai jamais tué personne, j'ai jamais violé une femme ou quoi que ce soit. Et puis je voyais pas. On me disait que j'étais digne d'aller en enfer si Jésus était pas mort sur la croix. et j'arrivais pas à accrocher ça à quelque chose de cohérent dans ma vie. Là. C'était un concept théologique abstrait, mais que je voyais, je pouvais pas accrocher à ma propre vie. Puis pour le moment, initialement j'ai dit bon, mais c'est comme ça, mais finalement j'ai dit ben Seigneur, en tout cas j'ai fait une toute petite prière là, et puis je me suis dit Seigneur, si tu peux m'expliquer ça, j'aimerais bien comprendre parce que ça me semble un peu étrange, puis je vois pas trop la part en tout ça. Et puis finalement l'idée m'est venue, j'ai pensé à un événement qui m'est arrivé quand j'avais 10 ans. Un événement assez banal, là. Souvent après l'école, nous, on s'amusait dans la cour. Et puis, vers l'heure du souper, soit ma mère ou mon père nous appelait, venez-vous-en, là, c'est le temps de manger, il faut arriver, il faut venir. Puis souvent, on s'amusait, on prenait notre temps, puis des fois, ça prenait 5, ça prenait 10 minutes avant qu'on arrive à la table. Et puis, un bon soir, mon père me regarde et dit, là, si tu fais ça encore, tu vas aller dans ta chambre, tu n'auras pas de souper. Bon, ben oui, papa. Comme tous les petits garçons, les enfants de cet âge-là, on a tout compris, papa, t'as pas besoin de le dire encore, papa, on le sait. Puis, mais deux, trois jours plus tard, on nous appelle pour souper, j'arrive à la table quelques temps un peu plus tard, et puis j'avais pas d'assiette devant moi. Oh non, c'est vrai, il avait dit ça. Puis là, mon père, il me regarde dans le blanc des yeux. Tu t'en vas dans ta chambre, tu sors pas de la soirée. Ah là, je trouvais qu'il avait exagéré. La fumée sortait des oreilles, j'étais furieux. Et puis, si ma mémoire est bonne, là, j'avais mis le poing à travers du mur. J'avais fait un petit dégât avec le Giproc, là. Et puis, le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, et puis, qu'est-ce qui serait arrivé si tu avais eu un gun dans tes mains? Si tu avais eu un arme là, de quelconque à ce moment-là? Oui, peut-être que je ne sais pas. Puis là, j'ai réalisé que, ouais, ben peut-être que je n'étais pas si différent que le gars qui était en prison, qui avait fait un meurtre pour vrai, puis que le larron qui était condamné sur la croix pour meurtre ou des trucs du genre, là, que finalement, la différence entre moi et les personnes qui étaient vraiment accusées, qui étaient mises en prison pour de façon réelle, c'était plus une question de circonstances, d'environnement culturel, etc. Ce qui fait que, finalement, je me suis dit, « Oui, je pense peut-être que Paul Gosselin a besoin que Jésus soit mort sur la croix pour lui aussi. » Puis que c'est devenu, à partir de ce moment-là, c'est devenu un concept qui était plus abstrait, mais très personnel. Et puis en plus, ben, les Écritures nous disent, « Comme vous avez été pardonné, pardonnez aux autres. » Fait que là, j'ai dit, « Ah, moi j'ai été pardonné. » Avec pas juste les actes extérieurs, mais le potentiel de mal aussi qui était en moi était pardonné aussi. Là, ça me permettait de dire, ben là, quand quelqu'un me faisait quelque chose de mauvais, je pouvais pardonner aussi. Mais là, pour revenir au cheminement à l'université, tout ça, évidemment, il y a différents aspects. Là. Il y a un aspect institutionnel où est-ce que c'est que les institutions peuvent avoir un parti pris idéologique le plus ou moins explicite. Il y a des écoles de pensée, ça peut varier un peu là. Et puis aussi le plan individuel, l'étudiant confronté au professeur aussi, qui amène aussi une certaine flexibilité. On pourrait dire globalement, par exemple, sur le plan de l'universitaire, qu'en sciences sociales, on est beaucoup très lié à l'héritage du siècle des Lumières, la tendance humaniste ou même postmoderne, là, selon les départements, il y a des variantes. En Amérique du Nord, le postmoderne est bien populaire et en Europe, il semble que le postmoderne est un peu moins populaire sur le plan institutionnel, là, du moins. Là. Et puis, dans les sciences dures, ben là, il y a peut-être un peu plus d'ouverture vers des concepts peut-être un peu plus conservateur, parce que surtout avec les ingénieurs qui travaillent avec du concret, avec des choses qu'ils conçoivent, mais quand ces ingénieurs-là regardent la nature puis voient des mécanismes, là, des choses qui peuvent faire des choses, mais ces ingénieurs-là travaillent avec cette réalité concrète-là, ils savent les défis techniques qui sont posés par des mécanismes qui sont capables de régler pour emporter une solution, faire du travail concret, mais ces ingénieurs-là ont tendance à avoir une attitude un peu plus sympathique à l'idée d'un créateur. Mais encore là, en biologie, bon, ben, les gens ont un parti pris généralement, dans les milieux francophones du moins, un parti pris très définitif vis-à-vis une explication matérialiste de la vie, et puis ça fait que ça peut varier d'une institution à l'autre. Encore là aussi, il y en a d'un département à l'autre, et puis d'un professeur à l'autre. Mais en général, on a un parti pris moderne ou postmoderne selon le cas. Puis dans mon cas, moi, j'ai assez tôt, quand j'ai été exposé à l'environnement universitaire, j'ai eu comme attitude que, de douter de ceux qui doutent, de prendre une distance critique. Et, il y a toujours des théories qui sont à la mode. À l'époque où j'étais à l'université, c'était le structuralisme puis le marxisme qui était dominant là, à ce moment-là. Et puis, j'ai toujours gardé une certaine distance critique. Et puis, le fait d'avoir aussi une vision du monde intégrée, ça aide aussi d'avoir une distance critique. Fait que c'est un peu ça. Je ne sais pas si ça fait le tour de la question.
Oui, je te posais cette question-là sur ton parcours académique puis l'évolution de ta foi à travers de ça, parce que, je pense qu'aujourd'hui, tu as pu rationaliser tout ça, c'est clair. Je veux dire, tu es capable de mettre les choses en contexte, puis tu as fait un choix par rapport à ce que tu crois, ce que tu retiens. Moi, ce que je comprends, c'est que tu n'as absolument pas rejeté la connaissance, le type de choses qui sont enseignées à l'université, mais tu es capable de les mettre en contexte. Peut-être les voir d'une façon un peu moins fanatique, c'est peut-être drôle à dire.
Ouais.
Mais OK, puis je parle de l'enseignement, on va dire, qui est véhiculé en général à l'université. Bon. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était, t'as dû vivre des confrontations entre ta foi qui prenait une autre tournure à partir de la fin du secondaire, ce que je comprends, un engagement comme chrétien, évangélique, etc., vis-à-vis d'un milieu éducatif où on présentait de plus en plus clairement une vision du monde qui était opposée à celle du christianisme. Tu as dû vivre des confrontations, et ça a dû se vivre par étapes ou il y a dû avoir des périodes de crise, je sais pas, puis des périodes de résolution. Comment tu as vécu ça?
Ça dépend un peu, c'est un peu... presque un contexte un peu aléatoire là, d'une certaine manière là, parce que dépendait des cours que je prenais, dépendait de la personnalité aussi de certains professeurs, de vouloir poser immédiatement la question de la religion là comme quelque chose de marginal, quelque chose sans irrationnel, quelque chose fait que ça ma réaction était parfois là, liée aussi au contexte là, dans certains cours, par exemple sur la sexualité, où on montrait que on faisait valoir l'idée là, que le christianisme avait juste un effet sur les rapports hommes-femmes, et puis qu'on tentait de dénigrer toute la contribution judéo-chrétienne sur ce plan-là. J'ai eu des discussions là parfois, où des fois c'était dans le contexte de travaux longs là qu'il fallait remettre, et puis ce qui pouvait soulever des discussions assez intéressantes. Et puis parfois, étant donné que je remettais en question certaines façons de voir de la religion traditionnelle là, en tout cas en sciences sociales, moi on m'avait suggéré de faire ma maîtrise, par exemple, au département de théologie. On tentait de me marginaliser. Disons, on voyait pas tellement un bon oeil, le fait que l'institution, le département d'anthropologie, soit pris dans un carcan où il légitimerait une certaine remise en question de la définition de la religion qui pourrait dépasser autre chose que juste la religion traditionnelle, référence au surnaturel et aux divinités, mais qui pourrait à ce moment-là aller travailler de façon plus large, puis aborder des idéologies politiques, et puis même des questions beaucoup plus larges là. Donc ce genre de choses-là semblait déstabilisant, et puis évidemment le fait que la personne qui faisait ce discours-là se définissait comme chrétien évangélique, ça aussi, c'était comme un irritant, un grain de sable dans le processus. Et puis, ça fait que c'était tentant pour les intervenants là, de vouloir marginaliser tout ça, de, de dire, bon, va jouer dans le trafic, va jouer ailleurs, va trouver un autre endroit pour faire tes trucs, et puis...
Va écrire ça à la faculté de théologie, ouais. L'endroit où personne s'occupe de ce qui est écrit, de toute façon, parce que on marginalise comme tel la compétence d'un théologien.
C'est ça. C'est déjà sans intérêt, donc ce serait un autre truc sans intérêt de plus, et puis... c'est ça. Fait que c'est faut dire qu'il y a un genre de processus de filtration qui est de plus en plus puissant à mesure qu'on monte dans le processus. Fait qu'un étudiant au bac peut se permettre pas mal de remises en question, pas mal de choses un peu inorthodoxes. Mais dès qu'on atteint le niveau des études graduées, le processus se resserre de plus en plus parce qu'on atteint l'accès au lieu de pouvoir. Rendu au doctorat, par exemple, là, la personne qui gradue avec un doctorat est d'abord, il est approuvé par l'université, il est accrédité par l'université et il a accès à l'enseignement en milieu universitaire. Potentiellement aux médias. Ce qui fait qu'une personne de ce type-là, le processus de filtration devient de plus en plus serré. C'est comme un goulot. Et puis quand on arrive vers la fin du processus, la filtration, les tentatives de marginaliser quelqu'un qui a un discours qui ne va pas dans le sens habituel, le sens orthodoxe ou selon le cas, là, selon les écoles de pensée qui dominent là, le département en question, cette personne-là, si elle ne fit pas, elle va être tassée par toutes sortes de moyens, généralement par des moyens plus douces. Au début, on va s'objecter à des problèmes de plan académique et en général, ça se fait par des gens intelligents. Donc, on évite là, de rendre le processus de censure explicite. C'est ce qui fait un peu ce qui caractérise un peu ce genre de processus-là.
Bien. OK. Puis ta maîtrise, ben en fait, tu l'as menée à terme.
Oui.
Finalement, excuse le terme, mais tu l'auras fait avaler le morceau, c'est ce que je comprends.
Oui.
Bon, puis finalement, autrement dit, est-ce que je comprends bien, au départ, on ne voulait pas que tu prennes ça comme sujet de thèse, OK? En tout cas, on exprimait le fait que tu devais laisser ce sujet-là ou modifier la portée ou quoi que ce soit. Puis finalement, tu as réussi à maintenir ton orientation. Moi, ouais. Ma connaissance, ta thèse couvre effectivement les aspects t'étant vraiment la réflexion autour du concept religieux hors du champ habituel. Ouais. Okay, ça, c'est un fait. Ouais. Bon. Mais est-ce que tu as senti chez ceux qui s'opposaient à ton idée une évolution durant ta thèse? Est-ce que tu as senti finalement que autrement dit, tu as été obligé de les remettre en question, eux, pour pouvoir progresser. Est-ce que tu as senti, effectivement, qu'il y a une remise en question chez eux?
Ça, je pense que le processus, là, se fait peut-être sur le plan implicite seulement, là, parce que là, ces gens-là, le fait d'avoir gagné le droit de pouvoir remettre en question certaines choses, ça permet d'aller une étape plus loin. Et puis, évidemment, si on n'a pas réussi à convaincre à l'étape où est-ce que c'est qu'on construit sa thèse, où est-ce qu'on développe sa recherche, ben à ce moment-là, il serait bloqué immédiatement. Donc, il fallait gagner la crédibilité, il fallait gagner, répondre à des questions qu'eux posaient. Et puis, ça, c'est tous des trucs qui font partie du processus et puis qui sont légitimes, évidemment. Là, qu'il faut, chaque étudiant qui est aux études graduées va être confronté à ça. Et puis, ça fait que de manière implicite, peut-être, j'ai pu convaincre de certaines choses.